Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Et l'invité ce matin, c'est le colonel Michel Goya. Bonjour et bienvenue. Vous êtes historien, ancien officier des troupes de marine. On voulait ce matin prendre le temps avec vous de s'arrêter sur la situation en Ukraine. 10 mois de guerre depuis le 24 février. On parle de 250 000 morts. Personne n'entrevoit d'issue à ce stade. Vous allez pouvoir nous éclairer sur la situation sur le terrain au moment où le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est attendu à Kiev ce matin. Et on parlera du soutien de la France. D'abord sur le front, pas de trêve, on le voit bien, pendant ces fêtes de fin d'année, des bombardements y compris le 24 décembre à Kherson, 41 missiles tirés, un marché du centre-ville visé, il y a eu 10 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit c'est la terreur, c'est tuer pour intimider et prendre du plaisir. Ça reste la stratégie russe aujourd'hui, la terreur.
Oui, c'est ce sont des axes stratégiques de la Russie. En gros, il y en a trois. Hein. On maintient le front le plus solidement possible avant éventuellement de reprendre l'initiative sur le terrain donc au début de l'an prochain. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est frapper l'intérieur de l'Ukraine, soit sur la ligne de front. Kherson, elle est sur la ligne de front, donc elle est frappée par l'artillerie, soit vraiment les villes à l'intérieur et particulièrement le réseau électrique par des frappes de missiles. Ça, c'est l'aspect, c'est la pression qui est faite sur la population ukrainienne elle-même pour essayer d'affecter son moral, sans aucun espoir. Et puis le troisième axe, ce sont les opinions publiques occidentales, c'est le soutien à l'Ukraine qu'on espère faire faiblir. Donc ça, ce sont les trois axes, les trois lignes stratégiques russes actuelles.
Les installations énergétiques continuent d'être visées. Les Ukrainiens, aujourd'hui, sont toujours dans le noir, sans chauffage dans beaucoup de villes.
Oui, c'est ça. C'est une politique délibéré hein, de rendre la vie difficile à la population. Régulièrement, vous avez des salves de missiles, 50, 60, 70 missiles qui tombent d'un coup en une journée, à peu près une fois toutes les semaines. Les Russes ont encore la capacité probablement de faire ça pendant plusieurs mois. Donc c'est un bras de fer qui se fait entre ces attaques et puis une défense qui essaie de contrer ces missiles et qui essaie également de contrer les effets sur la population.
Alors on citait Kherson. Kherson, c'est cette ville qui a été reprise par les Ukrainiens le mois dernier, ce qui a fait reculer les Russes. Quelle est la situation depuis ? Est-ce que le froid, l'hiver, fige un petit peu le front et la situation aujourd'hui.
Alors, c'est pas tellement le froid, l'hiver hein, en réalité. Hein. Donc, il y a des conditions météo. C'est plus la pluie et les boues de l'automne qui ont ralenti la manœuvre. Il y a des problèmes logistiques aussi de part et d'autre. Tout simplement, on manque d'obus. Donc ça réduit également les opérations. Et puis les Russes ont resolidifié leur ligne de front en se retirant derrière le fleuve Dniepr en Kherson, abandonnant Kherson, dont je rappelle qu'elle était normalement une ville russe annexée, mais ils l'ont abandonnée et maintenant ils la frappent. Ils ont rétabli une ligne de front sur un obstacle solide, le fleuve, et puis l'envoi des poitrines, l'envoi de 40 000 soldats immédiatement mobilisés, puis d'autres dizaines de milliers qui sont venus par la suite pour être engagés directement sur la ligne de front avec des pertes considérables, mais en tout cas, d'un point de vue militaire, ça a permis à la Russie également de rétablir une ligne de défense solide.
Donc ça veut dire qu'après ces différents reculs de l'automne, la Russie a intérêt à cette situation figée. L'armée russe est en train de se refaire entre guillemets.
Oui, c'est l'espoir de la Russie. C'est d'abord de bloquer les initiatives ukrainiennes qui vont pas être stoppées par l'hiver. Hein. L'hiver, le froid, le gel, tout ça, ça ne gêne pas les opérations militaires. Hein. En 2015, les combats les plus durs qui avaient eu lieu entre Russes et Ukrainiens avaient eu lieu au mois de janvier. Janvier-février en plein froid. Donc ça n'empêche pas les opérations. Mais l'espoir russe, effectivement, c'est dans le premier temps de geler la situation, ce qui est pratiquement le cas. Et puis, avec les 150 000 mobilisés qui doivent arriver à nouveau sur le front ukrainien au début de l'an prochain, peut-être de reprendre l'initiative et de relancer peut-être à nouveau des offensives.
On voit que l'Ukraine réussit désormais, en tout cas la Russie accuse l'Ukraine de frapper désormais sur son sol, sur le sol russe, une attaque de drone sur une base aérienne à des centaines de kilomètres du front. Il y a eu aussi des saboteurs, selon le terme russe, qui ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'entrer en Russie. Est-ce que tout cela vous paraît crédible? Les Ukrainiens sont capables maintenant de frapper en Russie?
Oui, bien sûr. Alors, en réalité, ils l'ont fait depuis le début, mais c'était en bordure de la frontière, dans la région de Belgorod, par exemple. Ils ont frappé également en Crimée, alors qui est territoire ukrainien, mais que les Russes croyaient un peu inviolable, invulnérable. Et depuis un certain temps, maintenant, ils frappent beaucoup plus à l'intérieur du territoire russe, que ce soit par des actions de commando, de sabotage. On avait vu des images de sabotage dans une base d'hélicoptères dans le nord du pays, et depuis début de septembre, maintenant, il y a des frappes également très loin à l'intérieur du territoire russe, qui sont ponctuelles, mais qui font malgré tout des dégâts, et qui sont en tout cas très symboliques, qui montrent que le territoire russe peut être frappé, y compris jusqu'à Moscou.
Alors l'armement, vous le disiez, est essentiel dans les deux camps, et donc l'aide militaire apportée par les Occidentaux est essentielle à l'armée ukrainienne. Ce sera l'un des sujets du ministre français des armées, Sébastien Lecornu, qui est à Kiev ce matin. Mais la semaine dernière, c'est pas en Europe que Volodymyr Zelensky est venu pour sa première visite hors d'Ukraine depuis la guerre. C'est à Washington qu'il est allé directement. C'est un mauvais signal pour l'Europe. Quel signal il faut y voir? C'est les États-Unis qui ont la main aujourd'hui, qui sont les principaux interlocuteurs?
Bien sûr, les États-Unis fournissent la moitié de l'aide totale à l'Ukraine, toute aide confondue, financière, humanitaire, militaire, et pratiquement les deux tiers de l'aide militaire. Donc il est assez logique que Volodymyr Zelensky aille rendre visite aux États-Unis. Voilà, j'ajoute au passage que si les États-Unis sont dans cette position, c'est qu'ils se sont donné aussi les moyens d'avoir le leadership, d'être fort. Si nous, Français, nous faisions le même effort de défense que les Américains en termes de pourcentage du PIB, donc en termes d'effort, notre budget ne serait pas de 40 et quelques milliards d'euros, il serait de 92 milliards d'euros. Et là, on aurait certainement une place beaucoup plus importante dans les débats.
Oui, les États-Unis qui annoncent fournir un nouveau système de défense anti-aérienne Patriot et qui votent une nouvelle enveloppe de 45 milliards de dollars. Ce nouveau système de défense Patriot, il va être important sur le terrain, défense anti-aérienne?
Oui, c'est un élément très important. Alors, la défense anti-aérienne ukrainienne est déjà là, est déjà solide. Heureusement, sinon les villes seraient bombardées tous les jours par des avions russes. Mais elle est insuffisante pour l'instant à entraver cette campagne de missiles dont on parlait tout à l'heure, qui frappe toutes les semaines les villes. Et donc, ce système Patriot, il s'ajoute à cette structure de défense anti-aérienne. C'est un système très efficace et qui va permettre sur 160 kilomètres, c'est une bonne partie du territoire ukrainien, d'intercepter peut-être 90% des missiles balistiques ou des missiles de croisière qui sont lancés par la Russie.
Donc il y a cette aide américaine d'un côté, l'aide française, 18 canons César, quelques lance-roquettes, il pourrait y avoir de nouvelles annonces aujourd'hui. Il y a une forme de prudence côté français à ne pas fournir trop d'armes, à rester en deçà?
Alors, je crois qu'il y a surtout certaines incapacités. Je pense que nous, l'aide française à l'Ukraine, c'est 2% du total. Voilà, tout compris. Donc nous sommes actionnaires à 2% dans ce consortium.
2% du total de toute l'aide mondiale qui arrive à
l'Ukraine, toute aide confondue, militaire ou non. Et dans le domaine militaire, si on ne fait pas plus, c'est en réalité parce qu'on n'a pas plus. C'est-à-dire qu'on paye des dizaines d'années de petites économies qui ont asséché complètement nos stocks, nos capacités. Et donc, c'est comme les masques en termes sanitaires. Quand il n'y a plus de stocks, quand il n'y a plus de réserves, on est vulnérable à la surprise.
Vous parlez de la France, mais est-ce qu'il y a un pays européen qui fait mieux que la France?
Oui, le Royaume-Uni, déjà, qui est un pays européen, même s'il ne fait plus partie de l'Union européenne, et l'Allemagne, en termes absolus, fournissent beaucoup plus d'aide militaire que la France, en termes relatifs par rapport
à l'Allemagne qui pourtant
n'a pas une grosse armée.
Non, mais elle a encore des moyens, encore des stocks, elle a encore des moyens de production, elle produit encore des chars, par exemple, ce que ne fait plus la France. Et donc, oui, elle a encore des moyens. Mais j'y reviens, c'est les pays d'Europe de l'Est qui fournissent en réalité le plus d'efforts
qui sont les pays voisins du conflit. Est-ce que ça veut dire que ce poids dans l'aide militaire donne finalement aux États-Unis la main sur le conflit? Le jour où les États-Unis coupent le robinet et décident qu'il faut négocier, c'est à Washington que se décidera la fin de la guerre?
Je ne sais pas si c'est à Washington, mais en tout cas les États-Unis pèsent évidemment beaucoup plus dans cette guerre. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes actionnaire à 2% d'une société comme la France dans cette aide à l'Ukraine, vous pesez pas beaucoup dans les décisions. Quand vous représentez 50%, vous êtes actionnaire à 50%, oui, effectivement, là on vous écoute.
Est-ce que la question commence à se poser d'un calendrier vers une forme de dialogue, de négociation vers une fin de conflit. Est-ce que vous voyez cela arriver en 2023 ou est-ce que pour l'instant ça n'est pas du tout envisageable?
Alors dans l'immédiat, je pense que c'est prématuré, c'est-à-dire que la vérité sera sur le champ de bataille. Hein. C'est le champ de bataille qui va décider en réalité de négociation. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quoi. C'est d'abord pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une décision sur le champ de bataille, qu'il y ait un vainqueur, un vaincu vraiment. Alors que là, nous sommes dans une situation où les positions des uns et des autres sont totalement incompatible, où sur le terrain, on a quelque chose qui est relativement équilibré. Et donc, on est dans une situation où, au mieux, on peut avoir un gel de la situation militaire si les deux adversaires, finalement, s'épuisent et n'ont plus les moyens d'alimenter simplement cette guerre. Mais il n'y a pas encore, pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait un vaincu et qu'il admette.
Est-ce que les opinions publiques occidentales peuvent peser? On voit que les chiffres sont faramineux. C'est plus de 100 milliards de dollars qui ont été dépensés pour aider l'Ukraine dans cette guerre au niveau mondial. Est-ce que les opinions publiques, à un moment, ne diront pas ça suffit de dépenser autant d'argent pour cette guerre?
Oui, alors c'est ce que je disais au début, c'est un des centres de gravité de ce conflit, hein, ce soutien occidental et particulièrement le soutien américain, c'est celui-ci qui compte véritablement. Hein, si le soutien américain, devient faibli, oui, là les choses peuvent basculer très vite. Mmh. Si le soutien français faiblit, c'est plus compliqué. Mais c'est un véritable enjeu. Alors traditionnellement, ce soutien a tendance à s'éroder avec le temps, hein, quelles que soient les formes. Mais les choses peuvent changer. Vous savez que lorsqu'on a découvert les horreurs des exactions russes à Boutcha, effectivement, les perceptions ont également changé et le soutien à l'Ukraine a augmenté. Donc, il ne faut pas évidemment pas souhaiter qu'on découvre de telles horreurs à nouveau pour alimenter ce soutien. Mais pour l'instant, constatons qu'il est fort, qu'il est encore très très important et que compter sur une cassure de la volonté, sur une brisure de la volonté des peuples européens et américains à soutenir l'Ukraine, c'est pour l'instant une stratégie, une vision très aléatoire.
Et Vladimir Poutine, est-ce que ces différents reculs des dernières semaines, des derniers mois, le font vaciller ou est-ce que, selon vous, il tient?
Alors c'est toujours très difficile à dire. La kremlinologie n'est pas une science exacte. Oui, chaque coup, bien sûr, chaque défaite subie par l'armée russe est un coup porté également à Vladimir Poutine. Un ébranlement. Dans les issues possibles que l'on imagine de ce conflit, il y a la possibilité d'un changement de régime en Russie. La Russie, l'histoire de la Russie est assez et peu indulgente avec les losers, avec les dirigeants qui ont perdu. Si en plus ça associe des difficultés pour la population russe, ça peut avoir de fortes conséquences politiques. Pour l'instant, on en est là, ou plus exactement, on n'en sait rien. On ne sait pas très bien ce qui se passe du tout, sachant que malgré tout, cette idée de changement de régime, c'est aussi un saut quand même dans l'inconnu.
Et on comprend bien qu'on se dirige vers une guerre qui va durer et qui marquera à nouveau l'année 2023. On va arriver le 24 février au premier anniversaire du début de ce conflit. Merci beaucoup Michel Goya d'être venu ce matin nous expliquer tout ça sur RMC, ancien officier des troupes de marine. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.